que derrière les persiennes, toutes les commères l'observaient. Elle descendit la rue en pente qui menait à la maison familiale, poussa la porte de l'écurie, monta lentement l'escalier, entra dans le salon qui lui sembla d'une laideur désespérante, avec son buffet minable et le crucifix de bois accroché au-dessus, crucifix, notons-le, que sa mère avait refusé d'enlever, faisant céder pour une fois son époux et son fils, l'un et l'autre considérant, avec magnanimité, que son entêtement était un caprice de bonne femme à la conscience politique sous-développée, mais qu'il valait mieux ne point contrarier. Et elle se dit qu'elle revenait dans sa maison natale avec une âme d'étrangère. La mère jaillit de la cuisine et se jeta à son cou. « Hija de mi alma, déjame que te mire !» Et elle contempla longuement Monse, qu'elle avait vue partir adolescente, ingrate, et qu'elle retrouvait jeune femme épanouie. « Surtout du ventre !» dit ma mère en riant. « Comme tu as changé, comme tu es belle !» En revanche, Rocher, de retour des champs, n'eut pas l'air heureux de la revoir et lui demanda brutalement la cause de sa venue. « C'est qu'on n'a qu'une mère !» balbutia Monse. « Une de trop !» s'exclama Rocher. « Tu vas te taire !» dit la mère, qui fit mine de s'enlever une sandale et de la lui jeter à la figure. Et Monse constata que son frère et sa mère avaient repris leurs habitudes de vieux couple, et ce constat, sans qu'elle sût pourquoi, lui apporta un peu de réconfort. Le lendemain matin, Monse, qui n'avait pas dormi une seconde, qui s'était demandé toute la nuit comment et quand informer sa mère de sa grossesse, se décida à passer aux aveux. À peine levée, elle annonça tout à trac qu'elle attendait un enfant dont le père était mort au combat. Cette version des faits lui paraissant plus noble et admissible que la simple vérité. Se produisit alors exactement ce qu'elle redoutait. Sa mère fondit en vibrantes lamentations. Qu'elle jetait le déshonneur sur la famille, qu'elle salissait leur nom et leur réputation, que c'était la plus grande honte de sa vie, qu'on allait les montrer du doigt, qu'on allait les traîner dans la boue, que si la chose s'ébruitait, son père la tuerait. « Je n'attends que ça !» répondit Monse du tac au tac et le visage dur. Ce qui mit fin aux jérémiades, mais non aux soupirs éplorés, aux mines morfondues, aux exhortations itératives de ne surtout pas divulguer la chose, et aux prières ferventes à Jésus et à la Sainte Vierge qui l'aideraient à trouver le secours salvateur. Le secours, en vérité, viendrait d'une rencontre bien terrestre, mais ne dévoilons rien avant l'heure. Bernanos, de son côté, n'en finissait pas de méditer sur les événements d'Espagne qui resteraient présents à son esprit jusqu'à la fin de ses jours et marqueraient à tout jamais sa pensée et sa foi. Les infamies de l'Église qu'il avait glacées d'horreur, son cynisme, ses froides spéculations, sa prudence sénile l'amenaient paradoxalement à affirmer son amour du Christ avec une passion redoublée. Mais son Christ à lui n'était pas celui magique de la mère de Monse, ni celui vindicatif et porté à voir le mal partout de Doña Pura, encore moins celui potentesque de l'évêque-archevêque de Palma. Son Christ à lui était simplement celui des évangiles, celui qui secourait les mendiants, pardonnait aux larrons, bénissait les prostituées, et tous les humbles, et tous les déclassés, et tous les va-nu-pieds chers à son cœur. Il était celui qui disait au jeune homme riche « Va, vends tes biens, et donne-les aux pauvres. Il suffisait, bon sang, de lire les évangiles. Celui qui vomissait ceux-là qui parlent et ne font pas, ceux-là qui mettent de lourds fardeaux sur les épaules des autres alors qu'eux-mêmes se prélassent. Il suffisait d'ouvrir les évangiles à n'importe quelle page. Celui qui méprisait les vaines grandeurs et réservait ses foudres aux personnages en vue qui allaient bafrer chez les puissants et fondaient de plaisir en s'entendant appeler maître. Le Christ de Bernanos était assez proche, étonnamment, du Christ fraternel de Pier Paolo Pasolini, lequel voyait en la figure de Jésus et en ceux qui l'escortaient, sans foyer ni tombeau, les pauvres réfugiés des drames d'aujourd'hui. Il était celui qui n'avait pas été mis en croix par les communistes ni par les sacrilèges, soulignait Bernanos avec sa mordante ironie, mais par des prêtres opulents, approuvés sans réserve par la grande bourgeoisie et les intellectuels de l'époque qu'on appelait